le show du matin week-end.
Salut tout le monde!
Avec
Salut
Carbo
Radio X. Oh my gosh! They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west. Radio X Files.
Avec Christian Page. Oh my
gosh! Radio X.
Comme quoi dans la vie, Mélanie, faut jamais dire jamais. Des fois, on pense dire au revoir à des gens, mais on dit à la prochaine. Je suis tellement énervée, j'en suis quasiment émue. Christian, comment ça va?
Ça va très bien. Écoute, le sentiment est le même de mon côté. Quand j'ai reçu ton invitation cette semaine, j'étais très enthousiaste. Je me dis, waouh, enfin, j'ai retrouvé Camille, même si c'est pour quel un court instant, mais quand même, quel plaisir qu'on a eu à partager ensemble ces Radio X-Files. Et ben, écoute, tu me manques chaque semaine.
Oh, c'est partagé, Christian.
C'est rien contre les animateurs qui t'ont succédé, là, on se comprend bien, mais c'est vrai qu'on avait une belle chimie, puis c'était un des moments très agréable.
On a fait un projet qui s'appelait Suspect X ensemble, on sait que les tueurs en série. J'ai pensé à toi quand j'ai vu les premières images de Lizzie Borden, la série Monsters qui s'en vient sur Netflix en septembre. Fait que je fais du rattrapage avec toi. C'est un avant-goût en même temps de la prochaine saison qui commence cette semaine pour toi ou la semaine prochaine?
Tout à fait. Cette semaine. Donc, mais pour moi, mon retour à Radio X, d'abord jeudi dans le retour.
Oui.
J'y serai durant toute l'année, là, toute la prochaine saison. Ce sera toujours les jeudis entre 16h et 17h. Et donc, je vais parler un petit peu d'actualité, mais je laisse un peu Danny et ses joyeux lurons me lancer sur les sujets qui leur plaisent. Donc, c'est sûr qu'on va aborder des thèmes d'actualité de l'étrange, mais également théorie du complot ou de l'actualité, disons, insolite et controversée. Donc, ça me fait toujours un peu plaisir de donner mon opinion là-dessus parce que ça alimente toutes sortes de discussions. Puis, c'est toujours très, très intéressant. Puis, en même temps, ça nous permet d'avoir un contact avec le public directement puisque eux reçoivent en studio directement les commentaires du public. C'est le fun de voir comment les idées peuvent être divergentes parfois sur des sujets là, qui sont, c'est vrai, parfois des sujets de polémique là, très importants. Et puis, pour moi, Radio X-Files, vendredi, 18h, nouvelle saison. Et pour cette année, écoute, j'ai été réceptif aux demandes du public.
Okay.
Je t'explique. Il y a quelques années, dans une autre vie, là, à l'époque où on faisait Radio X-Files et qui est animé par Yannick Marceau.
Oui.
Hein, c'était moi, Yannick Marceau, qui animait les Radio X-Files. J'avais développé, pendant peut-être deux saisons, j'avais développé une espèce de façon de faire où on présentait un sujet. Donc, il y avait un narratif d'une quinzaine de minutes à peu près où j'étais seul au micro. Je racontais une histoire à caractère insolite, souvent avec un environnement là, sonore, une porte qui claque, le bruit de la foudre à l'extérieur. Donc, on faisait une espèce de montage qui était une histoire qui avait marqué de la culture du paranormal. Et là, ensuite, avec Marceau, ben, on décantait les points forts et les points faibles de cette histoire-là. Est-ce qu'il fallait y croire ou non, puis qu'est-ce qui était vérifiable et qu'est-ce qui ne l'était pas, toujours avec une approche très journalistique, hein, parce que j'insiste, encore cette année, comme dans les années précédentes, mon objectif n'est jamais de dire aux gens ce qu'ils doivent croire. La croyance, elle est légitime.
Ce sont les faits qui importent.
Voilà. Mais pour moi, et tu as tout à fait raison, hein, quelqu'un avait dit à un moment donné à quoi sert l'honnêteté du témoignage quand c'est l'acuité du témoignage qui compte. Donc, effectivement, donc, quand les gens racontent des choses, même s'ils sont très sincères, ça ne veut pas forcément dire que ce qu'ils racontent, c'est réellement ce qui s'est produit et ça ne remet pas en question leur bonne foi. Donc, moi, en ce qui me concerne, les gens sont libres de croire ce qu'ils veulent. Mais comme journaliste, je m'arrête aux faits. Quels sont les faits? Qu'est-ce qu'on peut vérifier? Qu'est-ce qu'on ne peut pas vérifier? Et souvent, il est peut-être nécessaire d'aller faire un petit tour en coulisses pour voir ce qui s'est passé. Donc, cette année, je reviendrai pas à cette formule parce que je l'avais abandonnée parce que c'était très, tu me permets l'expression anglaise, c'était très time-consuming.
Ouais.
L'idée d'écrire ce petit volet d'une quinzaine de minutes, l'enregistrer, faire de l'environnement sonore autour, tout ça était énormément demandant. Et donc, je voulais pas me lancer dans un autre projet comme celui-là. J'avais déjà fait l'expérience, je trouvais l'idée excellente, mais ça demandait beaucoup trop de temps. Donc, cette année, j'ai dit, OK, et les gens, chaque années, les gens me disaient, oui, on aimait ça, cette époque des X-Files, Radio X-Files, où vous racontiez l'histoire, etc. Donc, cette année, j'ai dit, je vais essayer de faire une version entre les deux. C'est-à-dire que, depuis quelques années, je me limite un peu à faire de l'actualité insolite et je commande cette actualité. Donc, très souvent, une seule nouvelle nous permet pratiquement d'alimenter toute l'émission parce qu'il y a un échange et on va plus loin que la simple nouvelle. Mais cette année, j'ai dit, OK, ce que je vais faire, les gens n'arrêtent pas de me rappeler, oui, on aimait ça, cette période avec les histoires. J'ai essayé de faire un entre-deux. Donc, je vais faire, bien sûr, de l'actualité et... comme je l'ai toujours fait dans le passé, les émissions sont toujours un peu thématisées. Donc, une semaine, c'est notre gros sujet, c'est les ovnis. Mm-hmm. La semaine suivante, c'est la parapsychologie. L'autre semaine, les grandes énigmes de l'histoire. Donc, on va garder un peu ces thématiques-là. Mais chaque semaine, je vais faire... Ce sera peut-être pas aussi sophistiqué avec l'environnement sonore et tout le reste, mais je vais quand même prendre un temps pour raconter une histoire. Dire, OK, bon, cette semaine, on parle d'OVNI, donc voici, je vous raconte une histoire d'OVNI qui a beaucoup marqué les imaginations. Donc, je vais la raconter, mais je vais la raconter non pas dans un enregistrement qui avait été préalablement fait avec tout ce qu'on faisait avant, mais je vais le faire directement en direct avec le public. Donc, je vais raconter l'histoire. Et ensuite, on va essayer de la décanter avec, bien sûr, ses éléments forts ses éléments faibles. Donc, ce sera un peu une version entre les deux qui va être moins demandante nécessairement, bien sûr, mais qui va ramener un peu les gens dans cette époque où on s'arrêtait à une histoire en particulier pour la décanter. Donc, ce serait la nouvelle mouture des Radio X-Files. Ça débute ce vendredi, donc le vendredi qui vient, à partir de 18h. Et j'espère que les gens sauront apprécier cette nouvelle formule.
Mais t'es toujours à l'écoute des auditeurs, fait que ça me surprendrait pas que les gens soient au rendez-vous comme toujours. C'est un honneur de te parler. Je te retourne l'appareil parce que c'est ce que tu m'as écrit sur Messenger. Ça va être un honneur d'être avec toi ce matin. J'ai dit, non, tu comprends pas. Le bouquet de fleurs est pour toi, Christian. Je te sens en forme en plus pour commencer cette saison-là. Comme quoi, t'as pris peut-être des vacances cet été. L'actualité en a quand même pas pris. Là, j'ai vu le festival à Roswell, ce qu'ils appellent le Mardi Gras des ovnis. Avais-tu ton costume de E.T. pour aller célébrer avec eux?
Non, mais j'y suis allé à quelques reprises. À Roswell et durant justement cette période, ce festival Roswell. C'est amusant que tu me lances là-dessus parce que c'est un peu ce qui a retenu l'attention, mais de façon un peu détournée. Bon, évidemment, on a parlé de Roswell, c'est toujours un peu amusant parce que, comme tu le dis si bien, c'est un peu comme une fête, un Mardi Gras. Les gens vont là, sont costumés. Pour les gens qui sont jamais allés à Roswell, ben, je vous souligne que le McDonald's est en forme de soucoupe volante. Sur les terre-pleins, sur les boulevards, on a les lampadaires ressemblent à des têtes d'extraterrestres.
On capitalise vraiment sur l'OVNI. Voilà. Là.
Et aux endroits où c'est interdit de stationner, il y a des pancartes qui disent que c'est interdit de stationner sauf pour une soucoupe volante. Donc, donc, ça vous montre un peu. C'est vrai que Roswell, mis à part que c'est le lieu de naissance de Demi Moore, je pense que personne ne saurait où est Roswell et qu'est Roswell. C'est aujourd'hui, c'est quand même une ville moyenne, mais à une époque, c'était un village, littéralement, une toute petite ville rurale qui se trouve dans le Nouveau-Mexique et qui n'aurait jamais retenu l'attention, n'eût été d'une histoire. Et ça, c'est amusant. Hein? Je prends quand même le temps de le dire parce que souvent, même cet été, quand je voyais des articles de journaux qui parlaient de Roswell, les gens disaient « Roswell, c'est l'histoire qui a débuté l'ère moderne des ovnis. Oh. » Parce que, bon, selon la légende, en juillet 1947, une soucoupe volante, comme on les appelait à l'époque, un ovni, se serait écrasé dans le désert de Roswell et éventuellement, l'armée américaine aurait récupéré à la fois l'épave de l'engin et les cadavres des occupants. Et là, c'est devenu une espèce de mythe. Mais il faut quand même se rappeler que cette histoire-là, elle n'a été connue qu'en 1980. Avant, personne ne connaissait cette histoire-là. Donc, c'est pas Roswell qui a mis au monde l'histoire moderne des ovnis.
C'est beaucoup plus tôt que ça.
Oui, c'est en 1947, ce qui a mis au monde l'histoire moderne des ovnis, dont on a beaucoup parlé dans la presse, même ici au Québec, et ce, en dépit que les faits se passaient aux États-Unis, c'est le 24 juin 1947, on a un pilote civil américain du nom de Kenneth Arnold qui a observé des objets lumineux au-dessus du mont Rainier dans l'État de Washington. Et quand il s'est posé à l'aéroport, il est allé voir un journaliste et il a dit au journaliste, voilà, j'ai vu des trucs un peu étranges, ça ressemblait à des croissants et ça volait très rapidement dans le ciel. Et puis, bon, le journaliste, à un moment donné, lui pose la question, il dit, bon, OK, c'était des croissants volants, là, mais ça se déplaçait comment, comme des avions conventionnel. Et Kenneth Arnold répond « Non, ça se déplaçait. » Une étrange figure de style. Il dit « Ça se déplaçait comme des soucoupes que l'on aurait fait ricocher sur de l'eau. » Et le journaliste, ne faisant ni un ni deux, publie un article le lendemain matin, on est le 25 juin 1947, et publie un article en disant « Un pilote civil a vu des soucoupes volantes ». Même si Arnold a dit que c'était des croissants volants qui se déplaçaient comme des soucoupes, l'expression est née, le mot « soucoupe volante » est né. Et là, ça, c'est vraiment le début de l'ère moderne des ovnis. L'affaire de Roswell, à ce moment-là, personne n'a entendu parler de ça. Ça a fait l'objet d'un tout petit article dans la région de Roswell, où, au lendemain des événements, la presse locale avait dit « Ah, on a trouvé un... » On est au début du mois de juillet 47, donc... une semaine et demie à peu près après l'affaire de Kenneth Arnold, la presse, deux semaines en fait, la presse locale de Roswell dit « Ah, on a trouvé un disque volant dans le désert » et le lendemain, on a dit « Ah, le disque volant, finalement, ce n'était qu'un ballon-sonde ». L'histoire s'est arrêtée. Là. Il n'y a pas eu de réaction autour de ça. Donc, Roswell, ça n'a pas lancé l'ère moderne des ovnis. Roswell, ça a été 24 heures en 1947, puis on a oublié ça. Pendant les 30 années qui vont suivre, dans la littérature, quand on lisait des livres, je sais, j'y étais, là, j'ai commencé à m'intéresser à l'étrange en 1976. Donc, quand les premiers livres que j'ai lus sur les ovnis, jamais on faisait référence à Roswell. C'était oublié, cette affaire-là. Comme je l'ai mentionné, c'était 24 heures en 1947, ça n'a pas eu d'impact sur la culture populaire. Mais en 1980, un certain Stanton Friedman, un individu qui a joué un rôle très important dans la culture des ovnis, va rencontrer un militaire qui, lui, va lui faire cette confidence en disant « Ah, en 1947, j'étais à Roswell, puis on a récupéré un truc un peu étrange. » Et là, l'histoire va renaître. Hein? Il va y avoir un peu comme un phénix, l'histoire va renaître. Et là, elle va devenir un pan important dans l'histoire des ovnis. Mais ce, uniquement après 1980. Avant, on ne connaissait pas cette histoire-là. Bref, j'ai fait un peu un détour, mais t'es habitué, on le faisait.
Absolument. J'en garde le temps précieusement. Je vais dire, on en a, Christian.
Oui, bon, donc, cette histoire-là, mais c'est vrai que Roswell est devenu un peu un élément culturel très important. Et la ville de Roswell, n'eût été de cette histoire-là, ce serait une ville qui est un peu oubliée dans le désert. Hein. C'est un endroit poussiéreux, pas très accueillant. Pas très attirant. Très accueillant parce qu'il y a cette histoire-là, très attirant parce qu'il n'y a pas grand. En dehors de l'histoire de la soucoupe volante, Roswell, c'est pas, on n'est pas à New York, c'est pas une ville qui attire beaucoup le tourisme. Donc, mais la ville capitalise, comme tu le dis si bien, sur cette histoire d'extraterrestre. On peut pas faire un coin de rue sans tomber sur une affaire qui représente des soucoupes volantes ou des extraterrestres. On voit que la ville joue beaucoup ce rôle-là. C'est un peu pour les gens plus près de nous. Quand on parle, par exemple, de Salem au Massachusetts, la ville des sorcières, ceux qui y sont allés savent que dès que tu arrives dans le centre-ville, les voitures de police, le logo de la voiture de police sur la porte,
c'est une sorcière sur un balai.
Donc, c'est à peu près impossible d'échapper aux sorcières de Salem. C'est un peu la même chose à Roswell, impossible d'échapper aux extraterrestres.
C'est pas le même ratio de touristes, par exemple. On dit en moyenne à chaque année un genre de 20 000 personnes là, pour la fête des ovnis,
Et ça n'attire Roswell, c'est justement à cause de cet aspect très ludique de cet événement-là représente, que les gens se déplacent parce que c'est loin, puis c'est isolé, c'est pas très attirant. Donc, alors que à Salem, évidemment, en dehors de du week-end de l'Halloween, où là, ça devient un peu un mardi gras, les gens qui visitent Salem, quand même, il y a un aspect culturel, historique important. Puis quand même, Salem, on est à deux pas de Boston. Donc, les gens qui visitent Salem, généralement, ne s'arrêtent pas à Salem. On va aller jusqu'à Boston, on va visiter Boston, qui a des choses tout à fait remarquables, des musées extraordinaires. Donc, c'est un peu un arrêt sur la route vers Boston. Alors que à Roswell, t'es dans le désert. Tu passes pas par Roswell par hasard.
Non. Parce
que tu voulais y aller. Et pourquoi cette histoire-là en même temps? Bon, on en a parlé dans les journaux cet été, mais en même temps, c'est un peu ce qui a retenu l'attention durant l'été. C'est le gouvernement américain, à une époque, quand on parlait à Radio X-Files, quand on parlait d'OVNI, toi et moi, je disais tout le temps, les amateurs d'OVNI toujours réclament à grands cris, on voudrait une investigation sur les OVNI, on veut que le gouvernement rende public des dossiers sur les OVNI, et comme ça ne se produit pas, évidemment, ça alimente les théories du complot.
Exact.
Et avec, au moment où, avec l'administration Trump, ils ont annoncé assez rapidement, lorsqu'il a pris le pouvoir l'an dernier, il a dit, on va rendre public les fameux dossiers sur les ovnis. Bon, je sais que les mauvaises langues diront « Ouais, mais en même temps, ça détourne l'attention des dossiers Epstein. » C'est bien possible aussi. Là. Quand on parle sur coupe volante, on ne parle pas des dossiers Epstein.
Et là, si on parle des théories du complot, écoute, la genre à biscuits, elle est grande. Là, aussi.
Tout à fait. Donc, à ce moment-là, quelle que soit la véritable motivation, regardons plutôt le fait. C'est vrai que le gouvernement américain, quelque part, a tenu parole. C'est-à-dire qu'à partir de... je pense que le premier lot de documents qui a été rendu public, c'est en mars dernier. Donc, on en est rendu à la... Et au cours de l'été, il y en a eu deux. Hein. Le gouvernement rend le département de la guerre, hein, l'ancien département de la défense, a rendu public 5 lots jusqu'à présent, 5 lots de dossiers, d'images concernant les ovnis, qui sont accessibles à monsieur et madame tout le monde en allant sur le département de la guerre aux États-Unis. On tape ça dans notre moteur de recherche, là, OVNI ou UAP, là, pour Unidentified Aerial Phenomena. Donc, UAP, département de la guerre, et vous allez tomber sur le site du gouvernement. Et là, il y a 5 lots de dossiers qui ont été rendus publics depuis le mois de mars dernier. Et ça, ça a retenu beaucoup l'attention au cours de l'été parce qu'il y a eu 2 de ces lots qui ont été publiés au cours de l'été. Hein, les 3 premiers entre mars et juin à peu près. Et puis depuis juin, là, on en a eu 3 autres qui ont été publiés. Et pourquoi ça retient l'attention? Parce que on pourrait glisser dans la jarre à biscuits des théories du complot.
Okay.
Mais on voit que les Américains, ceux qui croient là, fermement aux ovnis, aux visites extraterrestres, sont très insatisfaits. Puis on peut le comprendre, hein, la barre était très haute. Hein?
Mais on s'attend toujours à la grande révélation.
Tout, et c'est exactement ça. Les gens là, qui croient là, fermement à cette mythologie OVNI, là, hein, dans cette mythologie OVNI, on dit on a récupéré des débris de machines volantes, on a récupéré des cadavres d'extraterrestres. Le gouvernement américain, du moins certaines grandes agences liées au domaine de l'aviation, des grandes compagnies comme Lockheed Martin ou Boeing ou d'autres compagnies comme ça, travailleraient, seraient dans le secret des dieux et feraient de la rétro-ingénierie sur des objets extraterrestres. Alors, la rétro-ingénierie, on prend un engin exotique, on le démonte pour voir comment il fonctionne, pour comprendre son fonctionnement, et on essaie d'adapter cette technologie à de la technologie domestique. Donc, c'est ça de la rétro-ingénierie. Là, on accuse des compagnies comme Lockheed d'être impliquées dans des projets semblables, des projets souterrains. Donc, ça, c'est la mythologie américaine. Et au cours des dernières années, il y a eu des auditions au Congrès américain, et là, des sonneurs d'alerte sont venus dire « Oui, moi, j'ai travaillé sur des projets secrets, on a récupéré des ovnis, je les ai vus, j'ai vu les extraterrestres, j'ai vu ci. » Donc, on comprend que pour les amateurs là, qui croient à ça, la barre était très, très haute. Et là, depuis le mois de mars, et incluant encore les derniers dossiers, là, le 5e lot a été publié il y a quelques jours à peine, les dossiers ne vont pas dans ce sens-là.
Okay.
Ce que les dossiers montrent, c'est... Pardonne-moi l'expression, là, mais c'est du niaisage. Des documents, des vieux documents qui remontent dans certains cas aux années 40, où un major de l'armée américaine écrit un colonel, puis lui pose « Oui, que pensez-vous des soucoupes volantes? » Là, ah, je pense que c'est vrai. Mais c'est insignifiant.
Je sors mon chapeau de complot, Christian. Est-ce qu'on sort des aussi vieux documents pour éviter justement des séances au Congrès puis reposer des questions à ce monde-là qui sont probablement décédés aujourd'hui?
Donc, tu vois, là, on est un peu dans cette image-là. C'est-à-dire que ces documents-là sont des documents qui sont tout à fait insignifiants. Il faut quand même le dire aussi, même si le document a beau dire, si on prend l'expression déclassifié, le gouvernement a beau dire que c'est des documents déclassifiés, au moins 80 % de ces documents-là étaient déjà connus du public ou étaient déjà accessibles. Donc, c'est la déclassification, elle est un peu diète, là, ici. Et quand on regarde les documents, ben, c'est soit des vieux documents qui remontent aux années 40, et les films, parce qu'il y a toutes sortes de lots de films, on voit que pour le département de la guerre, un OVNI, c'est n'importe quoi qui vole, puis il sait pas c'est quoi. Puis il n'a pas mis d'effort pour le savoir non plus, parce que dans la plupart des films, ce que l'on voit, ce sont surtout des films tournés en infrarouge sur des systèmes de surveillance militaire, et comme des drones ou des avions spéciaux là, équipés avec des caméras. Et on voit, c'est un peu, les ovnis apparaissent un peu de manière fortuite, c'est-à-dire qu'on a ces systèmes de surveillance qui surveillent, admettons, le ciel au-dessus de l'Iran ou qui surveillent des installations au sol. Et pendant qu'ils surveillent, ben voilà que dans le champ visuel de la caméra, on voit passer un petit point qui traverse l'écran. Et ce petit point, ça peut être un insecte, un oiseau, un ballon, n'importe quoi. On voit que pour le département de la guerre, dès que ces trucs apparaissent, on les met de côté et on classe ça comme un ovni. Mais on est conscient là, que ça peut être un oiseau, un avion, un ballon-sonde, un insecte. Là. Mais on n'a pas envie de mettre des efforts pour savoir ce que c'est, parce que c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de surveiller les installations pseudo-atomiques de l'Iran au sol. Tu comprends? C'est ça, ouais. L'objectif. Donc, on ne mettra pas d'efforts pour savoir, il y a un petit point qui est passé dans l'écran. Ben, il y a un petit point qui est passé, c'est tout. Et donc, on met en ligne ces images-là en disant, ah, voici image de surveillance au-dessus du Moyen-Orient, puis on regarde un petit point qui passe. Mais ça n'a pas de l'air d'un engin extraterrestre, ça, là. Je veux dire, ça n'a même pas de l'air d'un objet technologique, là. C'est un point qui passe. Tu sais, c'est rien, là. Ça n'a pas de comportement aéronautique particulier.
On ratisse c'est... large maintenant, c'est ça que tu me dis, en
voilà.
Fait.
Et donc, les amateurs d'OVNI qui, eux, s'attendaient, comme tu l'as si bien mentionné, là, tu sais, là, au smoking gun, là, eux, là, ça fait 60 ans, 70 ans, là, qu'ils réclament qu'on rende public les dossiers sur les OVNI. Ils sont dans leur environnement, là. Ils croient qu'on a des extraterrestres cachés, etc. Puis là, ce qu'on leur montre, c'est des lettres, des échanges d'informations, de documents insignifiants, des films insignifiants. Donc, j'avais déjà prédit en mars dernier, lors d'une émission de Radio X-Files, lors de la première publication de ces dossiers-là, j'ai dit, si ces dossiers-là ne vont pas dans le sens des amateurs d'OVNI, rapidement, on va crier à la théorie du complot et à la désinformation. Et c'est exactement ce qui se produit aujourd'hui. Le premier lot publié en mars dernier a suscité énormément d'intérêt. Partout dans la presse, on en a parlé. Le deuxième lot, un petit peu moins. Le cinquième lot, à moins d'être directement branché là, sur l'actualité insolite, t'en as probablement même pas entendu parler.
Non.
Les médias ont passé ça sous silence. Ça les intéresse plus. C'est insignifiant. Ce qu'on voit là-dedans, c'est insignifiant. Et donc, les amateurs d'OVNI, eux, ont deux choix. Ou bien de dire que finalement, ils ont eu tort. Ils ont cru pendant des décennies que le gouvernement à la mythologie OVNI et finalement, le gouvernement américain ne sait rien sur les OVNI puis leurs archives ne contiennent rien d'extravagant.
Et c'est vraiment ça ta perception qu'on est rendu à un Y dans on va dire, la condition alien, là, l'image qu'on se fait d'une vie extraterrestre en 2026 après toutes ces années. On est rendu
c'est
là?
C'est ça. Donc c'est ou bien il n'y a rien, puis que les ovnis, finalement, c'est rien d'autre que des erreurs d'interprétation, comme le supposent énormément de sceptiques depuis des décennies, ou bien que c'est encore une fois, pour les amateurs d'ovnis, c'est une nouvelle voie de garage, hein, une nouvelle technique de désinformation en disant, ben voici, on va lui donner une petite sucette, puis ça va les calmer. Puis ils vont cesser de questionner le gouvernement sur ce qu'il sait réellement sur les ovnis. Donc, on retombe dans une espèce de théorie du complot. Et c'est exactement ce que l'on voit si on va sur des sites d'amateurs d'ovnis. C'est ce que l'on voit. Et c'est un peu, si je résume leur pensée, c'est ça vaut pas la peine de regarder les dossiers déclassifiés du gouvernement parce que ce n'est que de la désinformation. La vérité est ailleurs.
Oh, ailleurs, c'est-à-dire un média alternatif, mettons?
Un média alternatif où ça reste enterré, endormi dans des dossiers du gouvernement si secrets que même soit peut-être le département de la guerre où le président n'y a même pas accès. Là. Donc, on c'est une espèce de pour les gens qui adhèrent à cette théorie, mais on voit qu'il y a une espèce de fuite en avant. Je rappellerai, Albert Einstein disait, il est plus facile de fissurer un atome que de briser une croyance. Donc, on comprend que pour les amateurs d'OVNI qui croient, hein, puis je sais pas s'ils ont raison ou non d'y croire, mais ceux qui croient à ça, cette mythologie OVNI, bien évidemment, pour eux, ces dossiers-là sont insignifiants. Donc, forcément, le gouvernement doit cacher ces dossiers-là ailleurs et fait tous les efforts, déploie tous les efforts nécessaires pour ne pas les rendre publics. Et donc, c'est un peu ce qui a retenu l'attention cet été, cette histoire, ce grand débat autour des dossiers nouvellement rendus publics par le gouvernement américain sur les OVNI et qui finalement ne sont à peu près insignifiants et ne présentent rien de vraiment intéressant.
Rien à se mettre vraiment sous la dent. Est-ce qu'il y a des auditions attendues du Congrès cet automne? Est-ce que c'est vraiment un dossier qui tombe littéralement au point mort?
Non, l'idée des auditions, elle perdure. Là. Il doit y avoir encore cet automne de nouvelles auditions avec de nouveaux sonneurs d'alerte. Mais le problème avec les sonneurs d'alerte, c'est que ces gens-là viennent témoigner devant le Congrès. Jusqu'à maintenant, certains d'entre eux ont tenu des discours tout à fait fantastiques. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Oui, j'ai vu un ovni dans un hangar, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Bon, en dehors de ceux qui viennent témoigner pour livrer des témoignages, Et encore une fois, leur témoignage, je ne remets pas, et personne ne remet en question leur bonne foi. Ces gens-là racontent des phénomènes qu'ils ont vus, qu'ils croient être la vérité et qu'ils croient être de nature exotique. Mais maintenant, sans un film, sans une photographie, bon, ça devient difficile de savoir ce qu'ils ont vu réellement. Donc, en dehors de ces témoignages, il y a tous les autres sonneurs d'alerte qui, eux, disent détenir de l'information, entre guillemets, de l'interne. Mais ces informations-là, elles ne sont jamais corroborées. Donc, les gens arrivent, racontent leur histoire. OK, parfait, t'as vu des extraterrestres. Est-ce que t'as une photo? Non, j'ai pas de photo. Est-ce que t'as pensé de les filmer? Non, on les a pas filmés. OK. Est-ce qu'il y avait des débris de machines volantes? Est-ce que t'as des débris? Non, on les a pas non plus. Donc, finalement, on reste un peu sur notre faim. C'est encore des gens qui racontent des histoires fantastiques. Mais où sont les preuves? Et c'est un peu ce qu'on réclame. Hein? Après, de 1947 à 2026, là, il serait temps qu'on voit finalement des preuves de l'existence de ces véhicules extraterrestres. Ce qu'on n'a pas, on a de bien belles histoires. Et ce que ces gens-là viennent livrer au Congrès dans leurs témoignages ne font qu'ajouter un peu plus à la littérature, mais n'apportent aucune preuve. C'est-à-dire, on a déjà, je ne sais pas, moins 5000 livres sur les ovnis qui ont été écrits au cours des 70 dernières années ou 80 dernières années. Ben, que les témoignages de ces gens-là fassent l'objet d'un énième livre de plus, ça apporte rien de plus. Des témoignages, on en a des témoignages. Donc, 10, 20, 50 de plus, ça ne changera rien. On en a déjà des millions, des témoignages. Et qui plus est, à l'encontre un peu d'une opinion populaire.
Ouais.
Je sais que, tu sais, quand on ouvre un magazine puis on parle de soucoupe volante, souvent on débute l'article en disant « Ah, le témoin est un policier ou le témoin est un pilote de l'avion. »
Automatiquement, etc. Crédible.
On se dit « Bien, automatiquement, c'est crédible. » Alors que toutes les recherches, je le dis bien, là, puis j'insiste là-dessus, toutes les recherches, pas 99% des recherches, 100% des recherches, montre que si le témoin ne sait pas ce qu'il observe, toutes ces évaluations en termes de distance, de vitesse, de mouvement risquent d'être erronées. Que ce témoin-là soit un pilote d'avion ou un type qui travaille dans un restaurant de restauration rapide. Donc, ça n'a pas d'importance que le type soit un pilote. Il ne sait pas ce qu'il observe. Le pilote dans un appareil, un F-18, sait à quoi ressemble un autre avion en vol, que ce soit un Airbus ou que ce soit un autre jet là, de l'armée. Il sait à quoi ça ressemble dans le ciel. Mais quand il voit un point lumineux dans le ciel, ben, il ne sait pas ce que c'est. Donc, il ne peut pas savoir, il n'y a pas de référence, là. Donc, il y a une lumière dans le ciel. Est-ce que cette lumière est à 10 km ou est-ce qu'elle est à 50 mètres ou est-ce qu'elle est à 50 ou 100 km? Il ne sait pas. Donc, à partir du moment où il ne sait pas à quelle distance cet objet-là est, ben, tout ce qu'il dit en termes de vitesse de déplacement, tu comprends, si l'objet se trouve à 50 km, traverser l'horizon, il faut qu'il vole à, je sais pas, moins 2000 km/h. Mais si l'objet est à 50 mètres de lui puis c'est un espèce de ballon, ben, l'objet va traverser son horizon en 3 secondes à une vitesse de 15 km/h.
Qui ne verra pas passer, ça va avoir le même résultat. C'est un peu une image, Christian, des formes qu'on voit dans les champs. Hein. On se retrouve dans un labyrinthe à se contrer à des portes fermées ou à une absence de réponse.
C'est... Tout à fait.
Effectivement, ça fait pouet-pouet cet été pour les amateurs d'OVNI.
Oui, c'est ça. Donc, donc toutes les études le montrent. Donc, à partir du moment où on se dit, bon, des témoignages, même si les témoignages peuvent paraître crédibles, a priori, on sait que même si le témoignage est crédible, c'est le contenu, hein, c'est l'acuité du témoignage qui est importante. Donc, cette acuité-là, bien évidemment, elle peut être questionnée, que ce soit celle d'un pilote, d'un policier ou d'un type chauffeur de taxi. Donc, à partir de là, on a besoin de preuves. Hein. Il y avait l'astrophysicien, astronome Carl Sagan qui est décédé maintenant, mais qui disait une affirmation extraordinaire nécessite une preuve extraordinaire. Mm. Or, on a ici des récits extraordinaires, mais cette preuve extraordinaire, elle n'est jamais là, elle n'est pas au rendez-vous. Donc, évidemment, on se questionne, et je pense que les amateurs d'OVNI misaient beaucoup sur la déclassification de ces fameux dossiers américains et qui ne s'est pas produite. Et d'ailleurs, c'est amusant parce qu'en dehors des États-Unis, quand on regarde l'actualité, on constate assez rapidement qu'en dehors des États-Unis, il n'y a pas vraiment un grand intérêt pour ça. Hein?
C'est vrai.
Le gouvernement canadien, l'an dernier, on fait un projet qu'on a appelé Ciel Canada, qui était une réponse un peu à l'histoire des, tu te rappelles, les fameux ballons chinois, je crois que c'était en 2024, qui avaient un peu alimenté la presse. Bon, les Américains avaient un peu questionné le gouvernement canadien en disant, quelle est l'hégémonie du ciel canadien? est-ce que vous laissez rentrer n'importe quoi?
La réponse est un peu non. Oui, là. On laisse un peu rentrer
ouais,
n'importe
ouais,
quoi.
Et le gouvernement, quand... puis on lui envoie beaucoup de fumée, apparemment.
Oui, oui, oui.
Et, bon, mais le gouvernement canadien avait réagi en disant, bon, OK, on va se poser la question, qu'est-ce qu'on fait avec les histoires d'OVNI? Et puis, il y a eu une grande réflexion à laquelle moi-même j'ai participé. Et cette réflexion, ça a été de dire, ah ben, il n'y a pas grand-chose là-dedans. On n'a pas de preuves, rien de ça. On n'a surtout pas de preuves de visites extraterrestres. Hein. On a beaucoup de gens qui racontent toutes sortes d'histoires, mais les preuves de visites extraterrestres, on n'a pas ça. Et le gouvernement canadien avait dit, bon, ben, le mieux, ce serait de confier l'étude de ces phénomènes au lieu de les laisser au public. Hein, parce que au Québec, en ce moment, si vous voyez un OVNI et que vous voulez le rapporter, ben, il y a des associations d'amateurs d'OVNI, hein, des associations ufologiques. On dit. Ces gens-là ne sont pas très sérieux. Hein. Souvent, ils sont alimentés par leurs propres croyances, puis ouais. Ils croient aux extraterrestres, tout ça.
Et, ça fait un club social, là, si vous voulez dénoncer. Voilà, vous allez être parmi votre gang, vous allez vous conforter un petit peu dans ces mensonges-là. Christian, puis, tu sais que ça passe toujours trop vite. Je te laisse terminer en 30 secondes.
Bien, en 30 secondes, écoute, comme tu le vois, il y a encore beaucoup d'actualités insolites à discuter. Ce dossier-là alimente chaque semaine toutes sortes de croyances, toutes sortes de rumeurs. Donc, ce sera pour moi un plaisir de tenir la barre encore une fois pour une autre saison des Radio X-Files. J'espère que les gens seront nombreux. Puis écoute, Camille, si éventuellement tu fais un autre retour à Radio X, bien écoute, j'aurai énormément de plaisir à te retrouver encore une fois.
Tu sais que ça va me faire plaisir de te dire à la prochaine, Christian, parce que c'est pas l'envie qui manque, tu le sais. J'ai adoré notre collaboration ensemble, puis ça passe trop vite. J'aurais pris une autre heure. Je vais tasser Pee-wee avec les légendes du rock pour continuer à jaser avec toi. Je te souhaite tout à l'heure en forme. Je te souhaite une excellente saison des Radio X-Files. Bonne chronique également, parce que tu fais plusieurs autres médias. Fait que je te sortais un petit peu, mais pas tant de ton créneau horaire du matin. Là,
non, exact.
Exceptionnellement à Radio X. Merci, Christian. Je te souhaite une bonne fin d'été également, puis un bon début de saison.
Aussi. Ciao.
À bientôt.
Et à bientôt.
Bye-bye. C'est le maître lui-même, Christian Page. Qu'est-ce qu'il y a de plus? C'est un moulin à parole, passionné. Puis finalement,
passionné,
on n'apprend pas grand-chose de Roswell cette année, puis des ovnis, malheureusement. C'est toujours ça. Avec Christian, là, on a fait plein d'émissions ensemble sur les phénomènes extraterrestres, puis ça revient toujours à ça. C'est l'absence de réponse ou l'absence de preuves.
Ouais.
On n'en a pas assez. Ou c'est juste contre-vérifié tout le temps. Malheureusement, ça me fait du bien de le retrouver. Là. Je suis toute souriante, puis je vais être encore plus contente au retour aussi, parce que je l'ai dit, je fais la radio avec du monde que j'aime. Puis là, elle me paye pour dire ça. Non, c'est pas vrai. c'est ma patronne qui revient fraîchement d'Italie. Elle est bronzée, elle est en forme. Elle aussi, elle va pouvoir nous raconter ça au retour de la pause. Ici même à Radio X.
Le show du matin. Weekend.
Radio X.
It's the weekend.